Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
This morning was a very tragic one for us. Two cruise missiles hit Kharkiv.
Bonjour, la guerre en Ukraine et la question des disparus. Les chiffres parlent de 7000 civils tués et 11000 blessés, mais le bilan des pertes militaires, un an après l'invasion du pays par la Russie, reste encore difficile à établir. Ni Moscou ni Kiev ne souhaitent trop en parler, mais surtout beaucoup de soldats sont portés disparus. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge a donc mis sur pied une centrale d'appel pour aider les familles à retrouver leurs proches. Reportage à Genève de Jérémy Lanche.
Comité international de la Croix-Rouge, agence de recherche pour l'Ukraine. Ici Olga, que puis-je faire pour vous? Cette phrase, Olga Massia la répète à chaque coup de fil, tous les jours, depuis l'ouverture du centre d'appel en mars 2022. Les demandes viennent de partout, d'Ukraine et de Russie bien sûr, mais aussi de la diaspora ukrainienne ou russe qui a trouvé refuge dans le reste de l'Europe. Les histoires sont toujours les mêmes, ou presque, celles d'un soldat parti au front et qui n'a plus donné de nouvelles depuis plusieurs semaines.
Ça peut être un papa qui est obligé de se mettre sur le toit de sa maison pour avoir du réseau et qui nous demande si on sait où est son fils. On en a d'autres qui nous appellent tous les jours. À force, ils connaissent tous nos prénoms. En moyenne, on reçoit 600 appels par semaine, rien qu'ici à Genève.
Le chiffre ne compte pas, en effet, les demandes adressées au bureau annexe de Kiev et de Moscou. Les familles ne savent d'ailleurs pas toujours où est transféré leur appel. Mais dans tous les cas, y répondre n'est pas facile pour la trentaine d'opérateurs de la Croix.
Je comprends mieux les personnes qui appellent parce que moi aussi j'ai vécu ça.
L'histoire de Pascal Nguema est un peu particulière puisqu'avant de travailler pour l'agence de recherche pour l'Ukraine, il habitait Kherson qu'il a dû fuir avec sa famille.
J'ai vu des choses horribles avant d'arriver ici. Donc quand ils m'appellent, c'est un peu personnel. On veut les aider un peu plus et c'est ce sentiment-là d'impuissance qu'on a de temps en temps. C'est pas toujours évident parce que on reçoit beaucoup de peine, beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. Ils nous font partager ça. Parfois, on se découvre souvent être psychologue même, parce qu'il y a des gens qui nous appellent juste parce qu'ils veulent parler. Mais c'est notre travail aussi.
Le travail est d'autant plus frustrant que les opérateurs sont surtout là pour récolter des informations, un peu moins pour en communiquer. Ça, c'est le job de la section données que dirige Jérôme Cassou.
Nous recevons des informations de trois canaux principaux. Donc, effectivement, il y a les familles qui nous demandent des informations. Informations sur les personnes disparues. Ça, c'est le premier canal. Le deuxième canal, c'est qu'on reçoit aussi des informations des autorités avec lesquelles on travaille pour l'Ukraine et pour la Russie. Et le troisième canal d'information que l'on a, sont au travers de nos visites détention. Quand on visite un lieu de détention, on fait un inventaire des détenus qui sont présents et au travers de ça, on peut aussi donner des nouvelles aux familles.
Chaque information est triée, recoupée avant de revenir aux familles. Un temps de vérification nécessaire pour la Croix-Rouge qui ne veut prendre aucun risque.
Si un détenu nous a été notifié avec une information minimale, genre un nom sans une date de naissance, son régiment, ce genre de choses. Évidemment, quand on n'est pas sûr, on ne partage pas l'information, parce que c'est quelque part pire de donner une information mauvaise que de ne pas donner l'information du tout.
La Croix-Rouge a déjà reçu plus de 45 000 demandes par téléphone ou par email. Ça ne veut pas dire 45 000 disparus. On est plutôt aux alentours des 20 000 dossiers traités. Il faut absolument apporter une réponse à ces familles, estime Fito Repula. Elle dirige les relations extérieures de l'agence de recherche.
Vraiment, ce qui est important par rapport à ce bureau, c'est qu'on espère que la guerre va se terminer. Par contre, il va falloir faire un suivi après avec les familles qui ont perdu soit un soldat, ça peut être un civil. Nous sommes des gardiens de tous ces détails qui vont faire en sorte qu'un jour, les familles vont pouvoir faire le deuil, quoi.
Seule certitude, même si la guerre prenait fin demain, le centre d'appel, lui, est là pour durer. Il faudra des mois, voire des années, pour retrouver la trace de tous les disparus, dont on ne peut qu'estimer le véritable nombre.
Et Et sans le gaz russe, plusieurs options sont sur la table pour l'Europe. Économie d'énergie, mise en place d'une filière renouvelable et pourquoi pas d'hydrogène, développement des terminaux de gaz naturel liquéfié ou encore exploration de nouveaux gisements de gaz naturel. À Groningue, les Pays-Bas possédaient le plus grand gisement gazier de toute l'Europe occidentale, mais la production est à la baisse à la suite des tremblements de terre à répétition qui ont été causés par l'exploitation intensive du sol. Ils se tournent désormais plus loin, vers la mer du Nord, trop près de zones naturelles protégées, estiment les écologistes. Fin décembre, plusieurs organisations allemandes de défense de l'environnement ont déposé un recours auprès d'un tribunal néerlandais afin d'empêcher les forages. Reportage signé Antoine Moutot.
Le 15 juin dernier, c'est l'une des nouvelles du jour aux Pays-Bas.
Des centaines de scientifiques et d'universitaires tirent la sonnette d'alarme. Dans une lettre ouverte, ils demandent au secrétaire d'État aux exploitations minières de ne pas autoriser de nouveaux forages en mer du Nord.
Dans le texte signé 432 fois, les scientifiques affichent leur opposition au projet du gouvernement néerlandais de pallier provisoirement le gaz russe dont les Pays-Bas étaient récemment devenus dépendants. Et ce, en allant puiser dans les réserves de gaz présentes dans les fonds sous-marins de la mer du Nord. Deux semaines plus tôt, le secrétaire d'État Hans Feilbrief avait annoncé son intention d'accorder les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un champ gazier en mer à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. À 200 km au nord-est du siège du gouvernement à La Haye, sur la côte septentrionale de l'île de Schiermonnikoog, Joyce Koistra semble avoir beaucoup de mal à contenir sa colère. Selon cette militante écologiste, les autorités néerlandaises s'apprêtent à sacrifier l'environnement précieux de la région.
Il s'agit de l'un des derniers espaces naturels encore intacts des Pays-Bas. Le paysage est très diversifié ici à Schiermonnikoog. J'aime Schiermonnikoog et je veux la protéger.
Joyce Koistra est l'une des 944 habitants de l'île. Depuis plusieurs années déjà, elle manifeste régulièrement contre le projet de construction d'une plateforme gazière à 20 km en face de la plage où nous nous trouvons. Elle craint pour la biodiversité car le récif de Borkum, près duquel les forages doivent avoir lieu, est un habitat d'une haute importance pour la faune et la flore locale.
Ce que je dis, moi, c'est allez donc forer ailleurs, ou même ne forez pas du tout. Accélérons la transition énergétique. Extraire du gaz a énormément de répercussions sur la nature. Des produits chimiques vont finir dans la mer du Nord et donc ensuite dans la mer des Vaden, patrimoine mondial de l'UNESCO.
Comme sept autres îles néerlandaises, 24 îles allemandes et 5 îles danoises, Schiermonnikoog se trouve en effet à cheval entre la mer du Nord et la mer des Vaden, un environnement exceptionnel classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais selon René Peters, spécialiste des technologies du gaz à l'Institut de recherche TNO, il n'y a pas grand-chose à craindre.
Tous les produits chimiques qui pourraient éventuellement être utilisés pendant le forage ou pendant l'extraction du gaz ou du pétrole doivent être capturés et transportés en tant que déchets chimiques jusque sur la terre ferme. Donc il n'y a pas d'émission ou d'évacuation de produits chimiques dans la mer du Nord.
Jusqu'au début de l'invasion russe de l'Ukraine en février dernier, pour ces raisons environnementales, les autorités allemandes, notamment du Land de Basse-Saxe, étaient farouchement opposées aux ambitions gazières de La Haye dans cette région transfrontalière. Mais la guerre déclenchée par Moscou contre l'Ukraine et les sanctions sont passées par là, l'Allemagne cherche aussi désespérément des alternatives. Aujourd'hui, elle est également en train de délivrer les autorisations de forage. Chris De Reuter est directeur de la compagnie gazière One Dias, chargé du projet de forage. D'après lui, les Allemands se sont rendus compte qu'ils n'ont plus d'autre choix.
En décembre 2021 déjà, la Basse-Saxe a commencé à se rendre compte qu'elle ne pourrait plus obtenir autant de gaz qu'avant du gisement néerlandais de Groningue. La Basse-Saxe a alors demandé aux Pays-Bas si elle pouvait quand même être livrée. Mais le gouvernement néerlandais lui a répondu « Attendez un peu, vous voulez plus de gaz de Groningue, mais vous ne nous laissez pas aller en chercher en mer du Nord. »
Le gaz de Groningue auquel Chris De Reuter fait allusion est celui présent dans le sous-sol de la région proche de Groningue, l'un des plus grands gisements gaziers d'Europe. Mais en raison de tremblements de terre à répétition provoqués par l'exploitation intensive de ces sols, une partie des habitants de la zone vivait depuis des années un véritable cauchemar. Leur maison, parfois gravement endommagée, était devenue l'un des principaux sujets de discussion du pays. Sous pression, les autorités avaient fini par ordonner la fermeture progressive des vannes. Depuis, les Pays-Bas dépendaient de plus en plus du gaz russe. La plateforme gazière au large de Schiermonnikoor doit être prête d'ici 2024. Si les écologistes reprochent au gouvernement de préférer, une fois de plus, les énergies fossiles aux énergies renouvelables, Chris de Reuter, directeur de la compagnie gazière, juge au contraire que ces forages sont une bénédiction pour la transition énergétique des Pays-Bas.
L'argent gagné grâce à la politique de l'extraction du gaz des petits champs en mer du Nord, dont 70% doit atterrir dans les caisses de l'État, le gouvernement pourra, s'il le veut, s'en servir pour la transition énergétique.
Mais voilà, beaucoup dans la région craignent que ce ne soit là que le début de l'intensification des activités gazières des Pays-Bas en mer du Nord.
Et la Norvège aussi explore de nouvelles richesses gazières, cette fois au nord du cercle arctique. 20 milliards de mètres cubes qui pourront être exploités dès 2026. Et c'est l'Allemagne qui devrait être la principale bénéficiaire. Correspondance régionale de Carlotta Morteo.
Il y a de quoi alimenter l'équivalent de 2,5 millions de foyers pendant 7 ans. Le champ gazier d'Irpa, l'un des plus profonds de la mer de Norvège, à 1300 mètres sous la mer, va devoir être relié à la plateforme la plus proche, 80 km de distance, et nécessitera de nouvelles technologies pour protéger les installations contre le froid. Coût total, 1,4 milliard d'euros. Un investissement nécessaire pour rester sur le long terme un fournisseur stable du marché européen, a déclaré le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Terje Asland, qui a rappelé que si la Norvège a pu augmenter de 10% ses exportations de gaz en 2022, elle a atteint sa limite en termes de volume, avec des gisements qui entreront bientôt en phase de déclin. Il faut donc trouver et puiser dans de nouvelles réserves de gaz. La semaine dernière, 47 licences d'exploration ont donc été octroyées par la Norvège à 25 entreprises pétrogazières internationales. L'Allemagne, qui reçoit désormais 33%, soit la majorité de son gaz depuis la Norvège, compte d'autant plus sur ses développements d'avenir que Berlin mise sur l'hydrogène pour s'émanciper des énergies fossiles. Or, pour produire de l'hydrogène à moindre coût, il faut aujourd'hui du gaz naturel.
Wir kennen das Problem seit 50 Jahren. Was machst du? Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt.
Et les actions mises en place par les écologistes pour dénoncer le développement des hydrocarbures au détriment des énergies renouvelables ne plaît pas à tout le monde. Signe des temps, l'utilisation en Allemagne du mot climat terroriste pour dénigrer leur militantisme, le barbarisme de l'année, ont jugé les linguistes de l'université de Marbourg, qui chaque année lisent leur néologisme favori. Ce qui a créé une belle polémique en Allemagne, c'est la chronique en un mot signée cette semaine Delphine Nerbollier.
Terroriste climatique, ce mot est certainement l'un des plus polémiques des derniers mois en Allemagne. Pas surprenant donc qu'il ait été désigné comme le barbarisme de l'année par un jury de l'université de Marbourg. Sa porte-parole, Constance Spiess, explique la raison de ce choix sur la station de radio VDR.
Le jury a choisi ce terme, climat terroriste, car il fait un lien entre activistes climatiques et terrorisme. Ces activistes sont criminalisés et diffamés, et cela d'une manière générale. Quand on réfléchit à ce qu'est le terrorisme, c'est un usage systématique et large de la peur via une violence radicale et physique pouvant aller jusqu'au meurtre. On voit donc dans cette comparaison un usage de la langue qui stigmatise de manière inappropriée.
Ce terme est utilisé pour décrire certains militants climatiques dont les actions se sont radicalisées l'an dernier. Ils sont ciblés entre autres les groupes Extinction Rebellion et Letzte Generation qui bloquent la circulation, se collent au macadam et s'en prennent à des œuvres d'art pour dénoncer l'urgence climatique. Ce terme est utilisé par certains hommes politiques de droite, notamment bavarois, qui tracent un parallèle avec le mouvement terroriste d'extrême gauche, Fraction Armée Rouge. Ce groupe a tué 33 personnes dans les années 1970 et 80.
Terroriste climatique, ce concept est aussi régulièrement employé par certains médias liés au groupe Springer. Parmi eux, le tabloïd à grand tirage Bild et sa version télévisée Bild TV. Ces médias ont critiqué les activistes après la mort d'une cycliste à Berlin. Percutée par un camion, elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. L'ambulance qui venait la chercher a perdu du temps coincée par un embouteillage causé par ses militants. La semaine dernière, lorsque le barbarisme de l'année a été officiellement annoncé, la journaliste de Bild TV, Tsara Riffler, est intervenue en direct pour dénoncer ce choix.
Quand on se colle à la route et qu'on met en danger la vie d'autrui, il ne faut pas s'étonner d'être qualifié de climat-terroriste. Mais ce que je trouve pire, c'est que le choix du jury reflète une certaine police de la langue. On essaie de rendre tabou certaines réalités.
Les membres du jury, eux, se défendent de vouloir imposer une police de la langue. Ils espèrent plutôt ouvrir un débat sur l'usage des mots, notamment ceux les plus diffamatoires. Parmi ceux qui sont directement visés par ce terme de terroriste climatique, il y a les zadistes de Lützerath qui ont occupé ce hameau jusqu'au week-end dernier. Ce minuscule village situé dans l'ouest de l'Allemagne doit être rasé pour laisser la place à une immense mine de charbon à ciel ouvert qui ronge le paysage à sa bordure. Sophie était sur place la semaine dernière, membre de l'organisation Greenpeace. Elle dénonce l'emploi de ce terme pour décrire son militantisme.
Bien sûr, ce terme est un barbarisme, car les vrais terroristes climatiques, ce sont les gens. Enfin, pas vraiment les personnes en tant que telles, mais l'ensemble de ce système qui s'accroche au charbon et à toutes les énergies fossiles. Ce terme les décrit davantage. Et en même temps, je ne peux pas comparer avec du terrorisme, car cela n'a rien à voir. Ce parallèle est tellement mal placé.
Même incompréhension de la part de Winfried Bernhardt. Lui aussi était présent à Lützerath pour dénoncer l'usage du charbon. Il est membre du groupe Extinction Rebellion.
Pour moi, tout ça montre que les politiques et les dirigeants de grands groupes ont peur de changer d'opinion et d'aller vers une économie post-croissance. Nous avons besoin d'une forme d'économie complètement différente et donc les responsables de cette situation emploient ce terme pour se dédouaner de leurs responsabilités.
Au-delà de ce bras de fer verbal, police et justice suivent les événements sur le terrain. Les procès à l'encontre de militants climatiques se multiplient depuis un an. Essentiellement pour troubles à l'ordre public, les accusations de terrorisme ne sont pas encore à l'ordre du jour.
Et alors que l'Europe a donné son feu vert à la taxation des super-profits du secteur énergétique, pour lutter contre l'inflation, le gouvernement socialiste portugais a décidé de taxer les super-profits de la distribution alimentaire. Au grand dam des principaux intéressés, à Lisbonne, Marilyn Darcy.
La mesure a fait l'effet d'une bombe pour les sociétés de distribution alimentaire. À la fin de 2022, elles ont appris que leurs super-profits seront taxés. Une décision du Premier ministre Antonio Costa, qui a donc élargi la directive européenne sur la taxation des super-profits émanant des sociétés d'énergie fossile. Car en pleine période d'inflation galopante qui a frôlé les 10% et entame seulement maintenant une légère décrue, la grande distribution a dégagé des bénéfices inattendus. Le groupe Sonail, un des poids lourds du secteur, a engrangé 210 millions d'euros de bénéfices sur les 9 premiers mois de l'année, soit 32,9% de plus qu'en 2021. Son concurrent direct, le groupe Geronimo Martins, a dû se contenter d'un bénéfice extra de 140 millions d'euros, soit 30% de plus que l'année antérieure. Une somme qui s'explique difficilement, les représentants du secteur regroupés au sein de l'association APED affirmant être injustement visés alors qu'ils ne répercutent que 35% de l'augmentation des prix. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a annoncé que ces super-profits seront taxés à 25% sur l'exercice 2022 et 2023. Les groupes étrangers de la distribution alimentaire présents au Portugal sont également visés, mais à ce jour, on ne connaît pas l'étendue de leurs profits. En revanche, les petites entreprises sont épargnées par cette taxe exceptionnelle appelée CST, contribution sociale spécifique. Elle aura pour objectif de financer le soutien au tissu économique, particulier et entreprise, face aux augmentations des coûts de production, et également de financer formation et modernisation des entreprises du secteur commercial. Toute aide confondue, le gouvernement a besoin de 4 milliards d'euros pour ces aides. La distribution alimentaire n'en fournira qu'une partie, mais le message est clair, ceux qui s'enrichissent doivent contribuer.
l'accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous en podcast sur le site de RFI. Abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute. À bientôt aussi sur les réseaux sociaux et à demain.